Bienvenue dans cet épisode de Grand Écart. Vous êtes nombreuses à vous être écartées des routes tracées pour vous, à vous être aventurées là où on ne vous attendait pas, évadées de mille manières. Nous avons choisi de vous raconter vous, vos histoires, au travers de portraits. Voici celui d'aujourd'hui. Travailler où l'on veut, chez soi, au sein de sa famille, dans une entreprise, à l'usine ou dans un parlement. Trop souvent, on oublie que l'endroit d'où l'on vient façonne qui l'on est, mais aussi où nous allons. Devenir adulte, dans quel milieu, autour de quelle personne et avec quel niveau de vie. Ce déterminisme social, comme on l'appelle, est encore plus fort chez les femmes, issues de milieux précaires. Pourtant, certaines d'entre elles cassent le chemin établi et se retrouvent dans un milieu très lointain de celui où elles sont nées. C'est le cas de Christelle, qui a 45 ans et coordinatrice de projet entre des établissements d'enseignement supérieur. Elle est née dans une petite maison ouvrière de la Louvière. Aujourd'hui, elle vit dans une maison cossue, à Louvain-la-Neuve, avec ses trois garçons.
Moi, je n'étais pas du tout destinée à faire ce que je fais. Tout mon parcours de formation, d'une part, mais également le travail que je fais aujourd'hui, je ne savais même pas que ça existait. Et puis, il y avait les métiers qui m'entouraient, à savoir des métiers particuliers au milieu ouvrier duquel j'étais issue. Et... un milieu dans lequel l'infirmière à domicile qui venait changer, par exemple, le pansement de ma grand-mère, c'était une personne de référence, le médecin, pareil. Je me suis reconnue là-dedans parce que, quelque part, on ne m'attendait pas là où je suis aujourd'hui, mais moi-même, je ne m'y attendais pas. Mon père posait des voies, il était poseur de voies. Il serrait des boulons et il faisait des kilomètres sur la journée pour réparer, pour préparer, quel que soit le temps. Et maman, qui est couturière. Voilà, j'étais fille unique, des grands-parents, une grand-mère maternelle qui vivait seule à la campagne, qui était analphabète, qui ne parlait que le wallon, qui avait élevé toute seule quatre enfants au décès de son mari. Et du côté de mon papa, mes grands-parents étaient ouvriers. Donc ma grand-mère était souffleuse de verre dans une verrerie à Manage. Et mon grand-père, lui, était ouvrier dans les usines de la région. Tous dans ce type de métier où on faisait des choses, en fait, où on réalisait des choses et où on avait directement le fruit de son travail qui était visible. J'étais nulle pour réaliser des choses de mes mains. Je ne savais pas dessiner, je ne savais pas tricoter, je ne savais pas... même les macomoulas, je les ratais. Donc, voilà. Et donc, comme j'étais plutôt bonne à l'école et que mes parents, ma mère principalement et mon grand-père paternel mettaient beaucoup d'espoir dans l'école, c'était important, l'école, il fallait bien travailler et que pour moi, c'était très facile, l'école. Quand l'heure est arrivée d'entrer en secondaire, le choix s'est posé de l'établissement où j'irais et ça semblait nature. Enfin, moi, je voulais aller dans cette école qui était une école avec une... Je voulais pas aller dans un enseignement confessionnel et donc c'était cette école qui avait une très bonne réputation mais dans laquelle il y avait très peu d'enfants ouvriers. On était très très peu et avec ma meilleure amie qui était aussi issue d'un milieu populaire, on a vraiment décidé qu'on irait dans cette école et nos parents nous ont soutenus. Et puis, quand je suis arrivée tout doucement vers la fin de mes études secondaires, là, moi, je voulais partir. Je voulais en fait partir. Je voulais étudier à Bruxelles. Je ne voulais pas rester. Je ne voulais pas avoir une voiture. Je ne voulais pas faire les trajets. Non pas pour le trajet, mais parce que je voulais être ailleurs. À ce moment-là, on fait des sacrifices. Alors, je ne les ai pas vus, puisque je ne vivais plus vraiment avec eux. Donc, au quotidien, je ne le voyais pas. Il n'y avait pas de vacances, il n'y avait pas de resto. Ma mère ne s'achetait pas de fringues. On était dans... oui, il y avait une forme de sacrifice. Et donc, et moi, je savais que je ne pouvais pas rater, quoi. Et que c'était bien si je prenais un petit job à côté, pas pour payer mes études, mais pour tout le reste, parce que je ne voulais pas demander à mes parents de l'argent pour mes loisirs, pour m'amuser, alors qu'eux ne le faisaient pas. J'étais à la fois partagée entre la reconnaissance de ça, mais aussi ce que ça fait porter, le poids que ça peut faire porter, dont on n'a pas toujours conscience. Et quand on a 20 ans ou 18 ans, on ne dit pas merci. j'étais pas non plus super sympa, je crois, quand j'étais petite, parce que je sais pas, il y avait un truc qui faisait que peut-être j'avais un peu la tête, je m'étais pris un peu le melon, quoi, tu vois, ça, je réussissais bien, et donc tout allait très bien. Mais avec le recul, je me dis aussi que c'était une manière pour moi de ne pas peut-être montrer d'où je venais, comment c'était. J'étais très attentive à la façon dont je parlais, la façon dont j'écrivais. Et puis quand je suis arrivée à l'UNIF, les premiers mois ont été très durs. J'étais dans une section où il y avait peu d'étudiants, une grande majorité de personnes venant de Bruxelles, et puis qu'il y avait des références que je n'avais pas du tout, quoi. Je me souviens d'une copine qui, pour ses 18 ans, avait été toute excitée parce que sa grand-mère allait lui offrir un portefeuille Delvaux, quoi. Je ne savais même pas ce que c'était Delvaux. Je ne savais pas. Il n'y avait pas de magasin Delvaux à la Louvière. Il n'y avait pas de magasin Longchamp, il n'y avait pas de trucs chics, quoi. Bon, je n'allais pas à Bruxelles hein, quand j'étais petite. Oui, j'allais une fois par an faire les soldes en train et on allait rue Neuve. Et pour moi, c'était juste extraordinaire. Le décalage, il s'est vraiment fait sentir à ce moment-là sur la façon de parler aussi. Forcément, je parlais bien français, hein, je parlais très bien, hein, mais j'avais quand même parfois des petits mots qui revenaient. Je me souviens d'une sortie de cours, il neigeait. Et je dis aux filles de ma classe qui avaient leur voiture, les filles, vous allez devoir gratter vos carreaux, quoi. Et en fait, elles n'ont pas compris. Mais tu veux dire les vitres ? Et ça m'a vraiment, sur le moment, je me suis vraiment sentie mais minable. Alors qu'en fait, ce n'était pas du tout moi qui étais minable. Avec mon papa, les relations étaient assez distantes. Jusqu'à la naissance de mon fils, en fait. Hein. Par contre, avec ma mère, on avait une relation à la fois très... On a toujours une relation très forte, très dans la confiance l'une de l'autre. Et les choses se sont, à un moment donné, un peu renversées avec mon arrivée à l'université, en fait, je crois, dans la mesure où, à la fois, moi, je m'émancipais du milieu d'où je venais et... Mon émancipation l'émancipait aussi, et a émancipé mes parents. Quand je vois aujourd'hui la manière dont on vit, les moments qu'on passe ensemble, une fête de famille aujourd'hui, ici, avec mes enfants et mes parents, n'a rien à voir avec une fête de famille que j'ai pu connaître dans mon enfance ou mon adolescence. C'est autre chose, quoi. On a découvert en même temps, quelque part, une autre manière de vivre, un autre monde, un autre environnement, sans pour autant renier... les origines, les racines, et prendre encore du plaisir dans des fêtes de famille qui se font ailleurs dans ma famille et qui ressemblent à celles de mon enfance. Mais oui, ça fait vraiment très, très, très fort écho au dernier bouquin d'Édouard Louis, où il explique qu'à un moment donné, sa mère découvre dans un repas du houmous, quoi. Tu vois le truc du houmous. Et... ah bah ouais, en fait, quand j'ai lu ce truc, je me suis dit, mais oui, les apéros dînatoires, moi, je ne connaissais pas ça avant. Et j'ai découvert ça et forcément, j'ai intégré ça dans mes moments avec mes parents, les moments plus festifs. Et finalement, maintenant, quand mes parents reçoivent leurs amis, ils font ça aussi. Donc, il y a comme ça une espèce de transmission bilatérale entre nous qui est très jolie, je trouve. C'est vraiment très chouette, ça. Pour moi, la transmission, c'est super important. C'est aussi ce que mes parents m'ont appris, ça. C'est aussi ce que ma mère m'a appris à ne pas se sentir en difficulté parce que quelqu'un d'autre va peut-être faire mieux que soi, que moi. C'est de se dire, mais donne, transmets et tu verras bien et ne te sens pas en danger parce que tu vas transmettre à l'autre, quoi. Et c'est une richesse, ça. C'est vraiment une très grande richesse. Quelque part, on ne m'attendait pas là où je suis aujourd'hui, mais moi-même, je ne m'y attendais pas.
Transmettre, respecter d'où l'on vient et ceux qui nous ont portés, parfois au détriment de leurs propres désirs et de leur propre envie. Être là où on ne nous attend pas. Autant de valeurs qui font de l'histoire de Christelle une histoire de grand écart. À bientôt. Et merci de nous avoir écoutés.